King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouski de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci à l'émission, dans un premier temps, nous recevons M. André Minot, chercheur et professeur en éthique et en histoire ici à l'UQAR, qui a récemment publié un roman historique intitulé « Le secret de l'Apocalypse, la dernière année du monde » aux éditions Amalté en France en 2012. Le livre est donc disponible aux éditions Amalté, A-M-A-L-T-H-E, accent aigu E. Vous trouverez toutes les informations sur le site Internet de la maison d'édition. Dans un deuxième temps, on va enchaîner avec une capsule d'histoire littéraire. Mon collègue Martin Robitaille recevra Mme Catherine Gosselin. Ils vont s'entretenir des romans qui, à l'instar de celui de notre invité d'aujourd'hui, prennent l'une des grandes guerres pour thème. Dans un troisième temps, nous allons reparler avec André Minot. Et suivant notre tradition, et aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares, son rapport à la lecture et l'influence de certains livres ou certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivain. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre un extrait du roman « Le secret de l'Apocalypse » et nous aurons l'honneur d'entendre l'auteur lui-même nous le lire. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission M. André Minot. Bonjour André et bienvenue à l'émission.
Bonjour Camille, merci de m'avoir invité.
Ça nous fait plaisir. D'abord André, j'aimerais qu'on parle un peu de votre démarche, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un chercheur universitaire spécialisé, entre autres, en histoire des idéologies contemporaines qui va glisser vers la fiction et qui va décider d'écrire un roman historique, et plus particulièrement un roman historique pour la jeunesse. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire de la fiction et pourquoi spécifiquement être allé vers la littérature jeunesse?
Oui, c'est une question intéressante et importante. Du reste, l'origine du texte que j'ai écrit, c'est certain que normalement, je publie dans le domaine de l'histoire ou, mettons, des idées philosophiques en général. Je ne suis pas un littéraire de formation. Mm-hmm. Je suis un dilettante ou un amateur, pourrait-on dire. C'est un vieux rêve que j'ai depuis que très longtemps. Un rêve qui remonte à mon adolescence, en quelque sorte, écrire un roman.
C'est bien.
J'ai toujours eu le désir de le faire. J'ai jamais eu l'occasion, l'opportunité ou le temps de le faire. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, ça a comme débloqué. J'ai eu quelques idées, puis bon, j'ai mis ça par écrit. J'ai conçu et construit une histoire. Mais ça remonte à ces années. Je me rappelle quand j'étais étudiant au ce qui serait aujourd'hui le secondaire 3, si on veut. Mm-hmm. C'était le cours classique. J'étais en méthode. On avait fait un roman dans le cours de français.
J'avais fait
un roman d'une cinquantaine de pages sur un thème qui touchait du reste la Deuxième Guerre mondiale.
Ah bon?
Puis je m'étais dit à ce moment-là, j'aimerais ça pouvoir faire un roman, mais c'était jamais arrivé pour moi d'avoir le temps et de le faire et ainsi de suite. Alors, ça remonte à ces années-là. Probablement que c'est un roman jeunesse pour cette raison-là. C'est que je me revois comme adolescent, moi, à 15 ans, et j'aurais aimé toucher un public d'adolescents et d'adolescentes qui auraient pu avoir, disons, l'âge que j'avais, moi, quand j'ai pensé écrire un roman. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment un roman jeunesse tant que ça. Je l'ai naturellement relu. Il y a peut-être un peu trop d'idées, si on veut, et pas assez d'action. Naturellement, un auteur n'est jamais bon juge lui-même de ce qu'il a écrit. Là, le texte qu'on a écrit nous échappe et le sens travaille de lui-même.
Ouais.
Alors, c'est un roman jeunesse, oui, c'était ça dans mon intention, mais c'est un roman qui touche de toute façon plus large, hein, qui touche d'autres lecteurs, un public plus large que les adolescents.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le thème que vous abordez, peut toucher tous les adultes aussi, parce que ça, vous revisitez dans le fond un grand thème littéraire qui est le thème de la guerre. Hein? Et c'est particulier parce que dans votre roman, du prologue à l'épilogue, on va revisiter ce thème-là en traversant plusieurs époques et en allant sur plusieurs continents, parce qu'on suit des personnages qui vivent à l'époque des Templiers, des conquistadors au 17e siècle en Hollande, en Amérique, puis en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous nous amenez comme ça à remonter jusqu'à notre époque contemporaine où la guerre prend une autre forme, hein, soit celle du terrorisme et des attentats de septembre 2001. Donc, qu'est-ce qui vous fascine particulièrement dans ce grand thème littéraire-là et comment vous vous y êtes pris pour le revisiter d'une façon aussi personnelle?
C'est une question intéressante et bien sûr importante. Le thème de la guerre m'a toujours fasciné et cela au, disons... bien avant que j'ai pu donner suite à mon projet d'écrire un roman, oui. Ça m'a toujours fasciné du point de vue de l'histoire, du point de vue aussi de la philosophie. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est le phénomène de cette grande violence, en réalité épouvantablement destructrice, dont sont capables des gens, somme toute, pas méchants du tout, bien ordinaires. Donc, la capacité qu'ont des gens bien corrects, des gens qui sont distingués, etc., là, qui, à toutes les époques où ils ont vécu, entraient dans les normes, de produire de générer une violence incroyable dans le système, bien sûr, de commandement et de hiérarchisation des rapports humains assez stricts là, qui ont cours normalement durant les guerres, mais aussi par rapport aux idées qu'ont les gens. Ce qui me fascine et m'intéresse, c'est le rapport entre les idées et, bien sûr, la guerre, c'est-à-dire ce que les gens pensent et la manière dont ils vont se comporter ensuite dans l'histoire et comment ils deviennent, en quelque sorte, prisonniers des idéologies, hein, des systèmes de représentation qu'ils, du réel qu'ils ont, des systèmes de croyances, des systèmes de morale aussi. Tout ce qui... c'est ça qui m'intéresse en quelque sorte, comment les idées des gens vont se traduire dans une pratique, en quelque sorte, souvent de grande violence, et vont justifier cette pratique, en quelque sorte. On fait les guerres, les génocides, les crimes contre l'humanité, tout ça est directement relié à des idées particulières qu'on a, auxquelles on croit, et que les historiens, bien sûr, essaient de décrire, mais que j'ai essayé de faire vivre un peu dans mon roman.
D'accord, merci. En fait, j'aimerais qu'on aborde aussi la question des personnages qu'on suit dans le roman, des personnages historiques, je pense ici à Hitler, côtoient des personnages mythiques, hein, par exemple les quatre cavaliers, et des personnages purement inventés, je pense au couple d'Éric et de Katrina. Et vous réussissez à tisser un fil conducteur entre tous ces êtres de papier-là, pour emprunter les mots de Jean-Pierre Goldenstein. Sans révéler le punch de votre roman, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs quel lien vous avez tissé entre ces personnages-là?
Oui, c'est le lien, en quelque sorte, bien sûr, comme on vient de le mentionner, là, il va toucher des personnages réels, des personnages qui, dans certains cas, ne sont que mentionnés. Hitler est une figure, naturellement, qui est plus élaborée.
Oui, qui est
là,
plus centrale.
Personnage aussi mythique et personnage, bien sûr, fictif. Bon, naturellement, la recherche historique supporte le personnage de Hitler tel que je l'ai présenté. Le Hitler est conforme à l'histoire au sens où, naturellement, sa relation avec Friederike von Haarlem est une fiction, c'est ça le roman. Elle n'a jamais historiquement existé, si on veut. Mais le personnage lui-même est congruent. Il est fidèle à ce qu'Hitler a été historiquement. Donc, naturellement, ce sont plus mes, en quelque sorte, mon travail d'historien qui m'a amené à connaître le personnage Hitler. Mais naturellement, ces personnages ou ce personnage interagit avec des personnages, bien sûr, mythiques et fictifs. Globalement, en quelque sorte, il y a deux familles qui sont impliquées à travers le temps de l'histoire dans le roman. Une famille d'origine hollandaise, les Van Haarlem, une famille d'origine espagnole, les De Leon, qui interagissent à travers l'histoire et à travers les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ce sont donc quatre figures, bien sûr mythiques, qui représentent chacune l'argent, finalement, la cupidité, le pouvoir, le matérialisme et le fanatisme, l'étroitesse d'esprit auxquelles les croyances trop strictes mènent dans certains cas. Et le roman essaie de montrer comment, à travers le temps, ces personnages interagissent, mais aussi comment ces personnages, je parlais tantôt du rapport entre la grande violence des guerres et des génocides et les idées des gens, comment, en quelque sorte, ces personnages sont eux-mêmes pris au piège de leurs propres idées. Dans certains cas, coincés entre leurs idées et leurs passions. Oui. Dans d'autres cas, coincés entre des aspects contradictoires de leurs propres idées. J'entrerai pas dans le détail ici parce que ce serait trop long, mais je pourrais illustrer cela pour chacun des personnages du roman.
Oui. Alors, merci beaucoup, André, d'avoir répondu à mes questions sur votre démarche créatrice et sur votre roman Le secret de l'Apocalypse, la dernière année du monde.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerais tout.
On vient d'entendre Camille Deslauriers s'entretenir avec André Mineau de son dernier roman, Le secret de l'Apocalypse, qui met au cœur de son intrigue les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Ces événements, on le sait, ont été représentés et remis en scène dans plusieurs œuvres, tant cinématographiques que littéraires, au cours des dernières décennies. Pour ne parler que de la littérature, qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est un fait, n'est-ce pas, Catherine, que plusieurs romans contemporains prennent pour thème les deux grandes guerres du 20e siècle.
Oui, tout à fait, Martin. Dans le cas de la littérature française, tout particulièrement, chaque rentrée littéraire depuis les 25 dernières années nous apporte plusieurs fictions qui prennent pour cadre l'une ou l'autre des deux grandes guerres mondiales, dont certaines ont beaucoup de visibilité médiatique. On pense spontanément aux Bienveillantes récemment de Jonathan Little.
Oui.
J'ai dit donc depuis les 25 dernières années, parce qu'il faut dire que le thème de la guerre a fait un retour remarqué dans la littérature française à la fin des années 80. On peut parler vraiment dans les années 90-2000 d'une véritable multiplication des récits de guerre dans la littérature française, après quatre décennies où elle en avait très peu produit.
Mais pourquoi très peu?
Ben pour toutes sortes de raisons qui, en grande partie, échappent à la littérature. Des raisons évidentes, d'abord liées au trauma, à l'horreur de la guerre, encore toute récente, qu'on ne veut pas raviver à l'époque, ça se comprend aisément. On ne veut pas raviver non plus le clivage entre résistants et collaborateurs en France, qui a laissé des marques profondes dans les mémoires. Et plus généralement, les années de l'après-Deuxième Guerre mondiale, les fameuses Trente Glorieuses, ont été des années de reconstruction où l'attention était portée davantage vers le présent et le futur que vers le passé. En littérature, plus particulièrement, donc, les années 60 et 70 ont été marquées par des mouvements d'avant-garde qui ont d'abord mis de l'avant la recherche formelle dans l'écriture. C'est bon de le rappeler. L'écrivain, à l'époque, se présente d'abord et avant tout comme quelqu'un qui travaille le langage. Donc, c'est une expression qu'on entend beaucoup chez les écrivains. En réaction à Jean-Paul Sartre, qui exigeait de l'écrivain qu'il ait quelque chose à dire, les écrivains avant-gardistes, dans les années 60-70, vont défendre une conception de la littérature qui en fait d'abord un travail formel, un travail presque plastique même, chez un écrivain comme Robe Grillet, par exemple. C'est un fait que, même lorsqu'un roman parlait de la guerre, c'est pas du tout ce qu'on faisait ressortir dans les lectures qu'on en faisait à l'époque.
Alors, là-dessus, l'exemple le plus flagrant est sans doute celui du romancier Claude Simon.
Oui, tout à fait. Son roman La route des Flandres, qui est paru en 1960, qui est un roman qui est centré sur les événements de la grande débâcle de mai 1940, juste avant la capitulation de la France, eh bien, on n'a pratiquement pas fait mention à l'époque et jusque dans les années, jusqu'à la fin des années 70, du fait que ce roman parle de la guerre. C'est presque quelque chose qu'on cherchait à taire dans la critique.
Oui.
Donc, donné dans le roman historique, c'était pas du tout quelque chose qui était au goût du jour à l'époque.
Vous dites qu'on a assisté à une multiplication des récits de guerre dans le tournant des années 1990. Pouvez-vous nous parler de ce tournant, nous rappeler les œuvres qui l'ont marqué?
Oui, quelques titres, rapidement, parce qu'il y en a énormément. Peut-être un incontournable pour commencer, le roman « L'Acacia » de Claude Simon, qui paraît en 1989, donc 4 ans après que Claude Simon ait reçu le prix Nobel, c'était en 85. Donc, L'Acacia, c'est un roman qui porte sur les deux guerres mondiales. Le narrateur est un vieil homme qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il reconstitue son expérience de la guerre parallèlement à celle de son père, qui était un officier de carrière, mais qu'il n'a pas connu puisqu'il est mort au tout début de la Première Guerre, à l'été 1914. Dans L'Acacia, le narrateur va faire un véritable travail d'enquête dans le but de mettre en lumière les circonstances et les raisons de la mort de son père. On va le voir collecter, déchiffrer des archives familiales, militaires, recueillir des témoignages. Et ce roman, après, est construit sur un principe d'alternance entre les époques. Au fil de l'écriture, il y a des parallèles qui vont se tisser entre les expériences de la guerre du fils et du père, ce qui va faire que la guerre va devenir paradoxalement, par le travail de l'écriture et de la mémoire, un lieu à partir duquel va pouvoir s'écrire une autre histoire, va pouvoir s'établir une nouvelle filiation. Et après, donc, il y a toutes sortes de titres, peut-être en rafale, donc des romans de Jean Rouault qui ont fait beaucoup parler, qui ont été beaucoup lus, comme Les Champs d'honneur, des hommes illustres en 93, Première puis Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu en 91 Un long dimanche de fiançailles de Jacques Rizot, qui a été bien connu pour avoir été porté au cinéma par la suite par Jean-Pierre Jeunet. Ensuite, des romans de Patrick Modiano, Voyage de noces, Dora Bruder, des romans de Pierre Bergougnou, La Maison Rose, L'écriture des camps, Sans prun. Donc, il y a énormément de titres, énormément d'œuvres, même la bande dessinée avec Tardy.
Oui. Alors, à part un thème et une période historique dans laquelle ils installent leur fiction, qu'est-ce que tous ces romans dont vous nous avez parlé ont en commun, sur le plan formel notamment?
Oui, plusieurs choses. Ce sont toutes des œuvres, d'abord, qui ont une forte dimension autobiographique, dont je parlais de l'Acacia, d'une expérience de la guerre. Donc, c'est celle que Simon a vécue, celle de son père aussi. Donc, ce sont tous des faits véritables. Hein. Donc, tous ces romans dont j'ai parlé, enfin, que j'ai mentionné, sont tous des romans qui se détournent ou qui se méfient assurément de la fiction. Ce sont des œuvres vraiment qui partent d'événements vécus et qui cherchent à en rendre compte comme tels. Ce sont aussi des œuvres qui vont se présenter de manière très forte comme des enquêtes. Des enquêtes sur un passé qui se présente comme une énigme, un mystère. On cherche vraiment à comprendre, on est vraiment dans une recherche de sens dans ces romans-là. Ce sont des œuvres qui sont portées par un questionnement, et un questionnement non pas tant sur le passé en lui-même, hein, c'est pas une recherche d'une vérité objective sur le passé, mais un questionnement donc sur les traces qu'a laissé le passé sur le présent. Et en ce sens, donc, ces romans vont se distinguer fortement des romans historiques de facture plus traditionnelle. Ce sont des romans qui bouleversent profondément la chronologie, et des romans qui vont toujours se déployer selon une logique qui est vraiment celle de la mémoire et non plus de l'histoire. Donc, c'est vraiment la mémoire qui est au centre de ces romans. Le passé qu'ils vont nous donner à lire, c'est un passé qui va toujours être plein de trous au bout du compte, un passé dont on doute qu'on puisse arriver à le comprendre, à en comprendre le sens véritable. Donc, ce sont des romans qui se présentent toujours ultimement comme des tentative de reconstitution, toujours insatisfaite.
D'accord. Encore une fois, beaucoup de lectures.
Oui, tout
merci,
à fait.
Merci, merci Catherine.
Merci à vous.
Nous sommes de retour avec André Minot pour le troisième segment de notre émission. Puisqu'on parle dans votre cas de littérature jeunesse, j'aimerais peut-être qu'on parle d'abord du jeune André Minot, lecteur. Hein? Quels ont été vos premiers livres fétiches ou vos premiers livres marquants?
OK, c'est sûr que ça remonte à ma jeunesse, tout ça. Bon, j'ai eu mes goûts en littérature que j'avais dans ma jeunesse, que j'ai eu par la suite. Bon, peut-être que les auditeurs trouveront ça un peu étrange parce que je ne suis pas un littéraire de profession, je ne suis pas un professeur de littérature. J'ai eu mes goûts à moi qui n'ont été qu'à moi, en quelque sorte. Mes premiers contacts avec la lecture sont, bien sûr, autour de l'âge de 9 ans, 10 ans, les bandes dessinées, hein, Tintin, Astérix. Dans les textes continus, si on veut, romans structurés, les premiers textes que j'ai lus vers l'âge de 10 ans, 11 ans, c'était les ouvrages de Henri Vernet, Bob Moran,
d'accord,
que beaucoup de jeunes lisaient à l'époque, qui étaient des romans structurés, écrits du reste en excellent français.
Oui, oui.
Alors, ça, c'était mes lectures quand j'avais 11 ans, 12 ans, jusqu'au début de l'adolescence. J'en ai d'ailleurs un certain nombre chez moi que je garde par nostalgie.
Par nostalgie.
Par nostalgie du passé. C'est certain bien. Qu'ensuite, quand je suis arrivé à l'adolescence, avec l'enseignement qu'on avait au cours classique à l'époque, je me suis intéressé aux grands auteurs de la littérature française, surtout. Là, je me suis intéressé à Balzac, à Flaubert, à Maupassant, à Stendhal. Je me suis intéressé à Gide, François Mauriac aussi, même si c'est un auteur aujourd'hui qu'on dirait totalement démodé, Malraux. Hein? Et naturellement, je me suis intéressé aussi aux auteurs un peu plus philosophiques à mesure que mon adolescence avançait. Bien entendu, Sartre, Camus. Je me suis intéressé aussi à peut-être de la littérature un peu plus du terroir par rapport à mon lieu d'origine à moi. J'ai lu à l'époque et j'ai toujours gardé dans ma bibliothèque depuis les deux ouvrages de Germaine Guévremont, Le Survenant, oui. Marie Didas. Bon, même si personne ne lit plus ces livres-là aujourd'hui
en littérature,
moi, c'est mon pays, ça. Alors, ça fait partie de mes souvenirs et je garde précieusement dans ma bibliothèque ces volumes.
D'accord. Puis est-ce qu'il y a un roman de la guerre, par exemple, qui aurait été marquant pour si on cherchait des influences?
Oui, il y aurait naturellement, si on parle de romans touchant la guerre, toucherait en réalité plus la Première Guerre mondiale que la Seconde, c'est le roman de Pasternak, Le Docteur Jivago,
d'accord.
qui est un grand roman de guerre, bien entendu. Bien entendu, il y a La Roue rouge de Solzhenitsyn qui est paru plus tard. Solzhenitsyn est un auteur qui m'a influencé beaucoup, que j'ai aimé beaucoup lire. Je dirais que si on me posait la question d'un auteur préféré que j'aurais eu ou du roman qui aurait été pour moi le plus important, je répondrais Solzhenitsyn, sans aucun doute. Et aussi, dans une autre, même s'il n'y a aucun rapport, j'ajouterais Maupassant. Et ses nouvelles, ce très beau style, les impressions, les émotions, tout ce qui est intérieur, ça n'a rien à voir avec Solzhenitsyn, c'est autre chose. Mais je dirais que cet auteur serait peut-être le complément. Solzhenitsyn, c'est un auteur philosophique,
oui,
un énorme auteur qui, justement, va traiter de questions philosophiques autour de la grande violence, la révolution bolchevique, etc., en Russie.
Alors, si en contrepartie, on était curieux, parce qu'à tous les mois, je le fais avec mes invités, quelles seraient les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque d'André Minot?
C'est une bonne question. Il faudrait d'abord savoir où est ma bibliothèque. Mes livres sont un peu partout. Il y en a chez moi, il y en a dans mon bureau, oui. Il y en a dans des caisses. Naturellement, on retrouverait beaucoup de livres en histoire et parce que ma spécialisation de recherche touche l'histoire aujourd'hui. Beaucoup de livres en philosophie, parce que ma formation première est en philosophie. Hors de cela, on trouverait de la littérature un peu. On trouverait Le Rouge et le Noir de Stendhal. Mm-hmm. On trouverait Le Père Goriot de Balzac. On trouverait Germaine Guévremont, je l'ai dit tantôt. On trouverait les œuvres de Solzhenitsyn. On trouverait de la poésie aussi. J'aimais beaucoup les poètes quand j'étais adolescent, c'est-à-dire Desnos, Éluard, Aragon et autres auteurs du début du 20e siècle. Naturellement, on trouverait des livres sur l'art. J'aime beaucoup la peinture. Mm-hmm. Alors, j'ai plusieurs ouvrages sur les impressionnistes. J'ai des ouvrages sur la musique, parce que j'aime beaucoup la musique aussi.
C'est très éclectique.
Donc, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas directement reliées à mes activités professionnelles, mais qui sont qui font ma bibliothèque.
D'accord. Merci beaucoup, André. Écoutons maintenant, si vous le voulez bien, André Minot nous lire un extrait de son roman « Le secret de l'Apocalypse ».
Lundi, le 10 septembre, vers 11h du matin, Wilhelm est de retour chez lui après sa promenade habituelle. Il ouvre sa boîte aux lettres, prend son courrier et se dirige vers l'ascenseur. Sur cette enveloppe, de vieilles adresses ont été rayées jusqu'à ce que le bureau de poste y colle une étiquette comportant les données exactes. Mais l'entête est bizarre. On y voit un aigle, une croix gammée et l'inscription « Oberkommando des Heeres » au commandement de l'armée. La lettre a été estampillée à Tsossen en Allemagne en avril 1945. Intrigué, Wilhelm ouvre l'enveloppe pour en retirer les feuillets pliés d'une longue lettre en allemand qui lui est adressée. La lettre dit « Te rappelles-tu ces Juifs dont les visages ont été effacés de l'histoire par l'histoire? Peux-tu revoir dans ta tête les Juifs de Babillard? Tu étais là, parmi les hommes qui ont protégé le périmètre du site d'exécution. Tu pouvais observer ces femmes et ces enfants qui marchaient vers leur ultime destin. Te rappelles-tu ces visages? Ils avaient des rêves et des espoirs. Ils avaient des projets pour réaliser leur vie dépourvue d'avenir. Penses-tu qu'ils voulaient mourir? Certains hurlaient leur effroi et leur désespoir. Leur voix pénètre-t-elle tes murs maintenant? Qu'en est-il des voix et des visages de Stalingrad? Tu ne pouvais peut-être pas entendre ces voix à l'époque, à cause du discours assourdissant des canons. Tu ne pouvais peut-être pas voir ces visages dans l'obscurité des ruines ou dans l'éclat aveuglant des explosions. Maintenant, en toi-même, tu peux revoir les visages de ces soldats ennemis. Tu peux entendre leurs cris désespérés quand ils étaient mitraillés efficacement l'un après l'autre jusqu'au dernier. Mais c'étaient des communistes après tout, une perte infime pour l'histoire. De plus, ils étaient capables de représailles. Mais te rappelles-tu ce jeune garçon pendu à un lampadaire? Il faut présumer que c'est un partisan. Peux-tu revoir l'étrange lumière dans ses yeux quand la corde lui a serré le cou? En passant, qui a placé la corde autour de son cou? En réalité, je te dis la vérité. Les quatre cavaliers iront à New York et toi, tu es un pont entre le royaume de la mort et le royaume de la mort. Quand tu liras cette lettre, le quatrième cavalier en personne viendra peu de temps après et le futur reculera dans le passé. Le document porte une signature, la conscience inversée de l'armée, estampillée par le sceau officiel de l'OKH.
Je reprends le micro pour faire mes remerciements. Merci beaucoup à notre écrivain invité, André Minot. J'aimerais également remercier mes collaborateurs, qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaille et Catherine Gosselin. Merci également à Jean-Luc Théberge, à la technique. Je vous rappelle que l'émission Sous l'influence des livres a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.
Parking Nomade.